L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Dans le cadre du témoignage d'un enfant traqué, caché, André Panzer, organisé par l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France de Strasbourg, son président, Ilan Bloch, introduit le récit.
Merci d'être présent ce soir à l'université pour un moment qui, je crois, dépasse largement le cadre d'une simple conférence. Ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis pour écouter un récit du passé, nous sommes réunis pour rencontrer une mémoire qui est vivante. L'université, comme vous le savez, est un lieu de savoir, mais elle est aussi, et peut-être surtout, un lieu de transmission. Dans les amphithéâtres, nous étudions des textes, des archives, des dates, des concepts. Nous analysons l'histoire, nous la contextualisons. Pourtant, rien ne remplace la rencontre avec celles et ceux qui l'ont vécue, car la Shoah n'est pas seulement un événement historique que l'on trouve dans les livres. C'est une histoire faite de vies humaines, d'enfants, de familles, de destins bouleversés. Et lorsque nous avons la chance d'écouter un survivant, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle devient concrète. Nous avons aussi une responsabilité particulière. Nous sommes probablement parmi les derniers à pouvoir entendre directement la parole des survivants de la Shoah. C'est pourquoi ces moments sont si précieux. Ils ne sont pas seulement des conférences, ce sont des passerelles entre des générations. Et c'est précisément pour cela que la présence d'André Panzer parmi nous ce soir est si importante. André Panzer, vous êtes né à Paris en 1935, dans une famille juive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que vous n'étiez encore qu'un enfant, vous avez connu la persécution, la fuite et la clandestinité. Comme tant d'autres d'enfants juifs à cette époque, il a dû apprendre très tôt ce que signifiait la peur, l'exil et la nécessité de survivre. Grâce à la solidarité, au courage de résistants et de familles qui ont choisi d'aider, il a pu être sauvé. Mais ce qui rend sa présence ici encore plus précieuse, c'est qu'après la guerre, André a fait un choix, celui de témoigner. Pendant des décennies, il a rencontré des élèves, des étudiants, des citoyens, pour raconter ce qu'il a vécu et transmettre sa mémoire. Non pour rester prisonnier du passé, mais pour rappeler ce que l'histoire peut produire lorsque la haine, l'indifférence et la déshumanisation prennent le dessus.
Comme on vous l'a dit, je ne peux pas témoigner de la déportation. Je n'ai pas été déporté. On a parlé d'enfants cachés. Je préfère le terme d'enfants traqués. Parce qu'effectivement, on nous a volé notre enfance. Mes parents étaient des immigrés. Ils sont venus d'Europe orientale. Mon père est né à Budapest. De profession, il était mécanicien ajusteur, il travaillait, lorsqu'il est venu en France, dans une usine qui fabriquait des moteurs pour l'aviation. Et ma mère, elle, est venue de Pologne, elle est née à Varsovie, elle était couturière, après ma naissance, elle a été ouvrière à domicile. De leur rencontre à Paris, ils se sont mariés et je suis né. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, ou tout du moins lorsqu'elle a été déclarée, au mois de septembre 1939, la bataille sur le front français, ou je dirais même occidental de l'Europe, n'a pas commencé tout de suite. En 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne, après avoir annexé l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie. L'Allemagne a envahi la Pologne, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Mes parents, comme tous les autres, ont fui Paris. Je ne sais pas combien de temps on a marché, ça a peut-être duré une semaine, peut-être plus. On est arrivé à Orléans. On a été bloqué parce que la Loire traverse la ville. Et tous les ponts avaient été détruits, avaient été bombardés. Seulement, moi, à cette époque-là, j'avais moins de 5 ans, et il m'était impossible, mes jambes étaient trop courtes, pour marcher d'une traverse sur l'autre. Et c'est un tirailleur sénégalais qui a proposé à mes parents de me prendre sur ses épaules pour traverser ce fameux pont. Et comme je vous ai dit, il y avait énormément de monde, et puis comme à la sortie d'un stade ou d'un grand spectacle, il y a eu beaucoup de bousculades et mes parents ont été séparés. Moi, je me suis retrouvé avec ma mère seule, et mon père et ma grand-mère, de leur côté, se sont retrouvés seuls. On s'est perdu de vue et on ne savait pas où se chercher. Et finalement, on a donné une direction à ma mère, et ma mère m'a pris par la main, et on a commencé à marcher sur la route. Et au bout de quelques kilomètres, un camion est venu, un camionneur, a demandé à ma mère « Qu'est-ce que vous faites là, toute seule, avec un gamin ?» Ce chauffeur a dit « Écoutez, venez, montez dans le camion, et puis moi, tant que j'ai de l'essence, je roule, je m'occupe de vous. » Puis on est arrivé dans la Creuse avec ce monsieur, et là, il s'est arrêté, a demandé s'il pouvait nous héberger. Et les gens ont accepté, ma mère a travaillé dans ce restaurant, elle servait à table, elle lavait le linge, et on est resté là jusqu'à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, au moment où le maréchal Pétain, qui avait renversé la République entre-temps, avait signé l'armistice avec les troupes allemandes. À l'occasion de cet armistice, en plus, il y a eu des accords, naturellement, et la France a été partagée en deux. Au sud de cette ligne, c'était le gouvernement du maréchal Pétain, le gouvernement de Vichy. Et pour traverser cette ligne, c'était une véritable frontière. Elle était gardée d'un côté par les soldats allemands, par la Feldgendarmerie, et de l'autre côté, par la gendarmerie française. Le seul moyen de traverser cette frontière, c'était de la traverser clandestinement. Et pour ce faire, on avait affaire à ce qu'on appelait des passeurs. L'armistice ayant été signé, les combats ayant cessé, ma mère a voulu retourner à Paris. Et il s'est trouvé que mon père a eu la même idée. Et ils se sont donc retrouvés tous les deux à Paris. À Paris, disons que la vie ancienne a repris son cours. Mon père a été bien sûr licencié de l'usine où il travaillait parce qu'elle travaillait pour l'armée, pour l'aviation. Ma mère lui a appris des rudiments de couture. Moi, je suis retourné à l'école. Au mois de juin 1942, la loi avait été votée au mois de mai, mais à partir du mois de juin, tous les Juifs, ça faisait partie de ce qu'on a appelé le statut des Juifs, toutes les lois anti-juives. Par exemple, les professeurs dans les établissements scolaires, tout ce qui était l'éducation, tout ce qui était la santé, l'administration, je ne parle pas de la police et de l'armée, bien entendu, tous ces métiers étaient interdits aux Juifs. En juin 1942, il y a eu un complément aux lois du statut des Juifs. À partir de l'âge de 6 ans, le port obligatoire de l'étoile jaune cousue sur la poitrine. J'avais 6 ans et demi à ce moment-là. Je suis allé à l'école avec l'étoile jaune cousue sur... Je dois vous dire que lorsque ma mère m'a cousu l'étoile jaune sur la poitrine, que j'ai appris que j'étais juif. Mes parents n'étaient pas pratiquants comme la majorité des immigrés des pays de l'Est, qu'ils soient hongrois, roumains, russes ou polonais, les gens avaient, non pas rejeté, mais disons, s'étaient plus ou moins débarrassés des dogmes et des obligations de la religion juive. Au mois de juillet est arrivé ce que René Bousquet, le chef de la police française, avait manigancé avec les autorités allemandes sous le nom de code vent printanier, la rafle du Veldiv, la future rafle du Veldiv. Cette rafle a eu lieu le 16 et le 17 juillet 1942 et elle a commencé le 16 juillet à 4 heures du matin où la police qui avait les adresses des Juifs, le maréchal Pétain, lui, a demandé qu'il y ait un recensement. Et c'est au vu de ce recensement que les arrestations sont faites. Mes parents ont eu un soir la visite d'un inspecteur de police et leur a dit de ne pas dormir à la maison ce soir-là parce que le lendemain matin, on devait venir les arrêter. Mes parents et moi avons eu de la chance. Dans l'immeuble où nous habitions, au même étage, sur le même palier, il y avait un garçon qui allait à l'école avec moi, avec qui je jouais. On était en permanence ensemble dès qu'on avait un moment de libre. Ma mère a pris son courage à deux mains et elle est allée voir sa mère. Elle lui a demandé est-ce que, exceptionnellement, elle pouvait nous héberger pour la nuit à venir. Cette dame a accepté. Donc on est allé chez cette dame, on est resté là toute la nuit. Et le lendemain matin, on a entendu des gens monter, frapper à notre porte à plusieurs reprises. Comme on n'était pas là, au bout d'un moment, ils sont partis. Et ma mère a dit, bon, ça y est, là, maintenant, on les a entendus redescendre. Et notre voisine a dit, ne retournez pas chez vous et ne restez pas à Paris, parce que s'ils ne vous ont pas trouvé cette fois, ils vont revenir sans prévenir. Le Lot étant dans la moitié sud de Paris, la moitié dite non occupée. Mes parents ont donc décidé d'aller là-bas pour traverser cette frontière, cette ligne de démarcation. Il fallait la traverser clandestinement et savoir où on pouvait passer. Pour ça, donc, on a eu affaire à un passeur. On a eu affaire à un passeur qui nous a fait passer la ligne de démarcation, nous a déposé dans un village de l'autre côté où on nous a indiqué le chemin pour aller à la gare et reprendre le train pour continuer vers le Lot. Et on est arrivé dans le Lot, on a été chez la maman de notre voisine et elle nous a hébergés pendant quelques temps. Et lorsque on a trouvé chez des agriculteurs une maison, ils ont cherché du travail. Ma mère a trouvé un emploi chez la couturière du village et mon père, mécanicien, a trouvé un emploi dans une scierie. Voilà, tout allait bien. Ma mère m'a inscrit à l'école parce que pour nos parents, c'était très important, l'instruction, l'éducation. Et très rapidement, j'ai été inclus dans la communauté scolaire. Donc tout allait bien. Et puis un jour, mon père a croisé le secrétaire de la mairie de la commune dans le village. Et le secrétaire de mairie a dit, Monsieur Panzer, avec un nom comme le vôtre, on voit tout de suite que vous êtes étranger, il faut que vous changiez de nom. Il dit non, venez avec moi à la mairie, il l'a emmené dans son bureau. Où il a sorti d'un tiroir un document, contrat de mariage. Dans un contrat de mariage notarié. Le Lot, c'est une région viticole, donc le jeune homme a apporté des vignobles, la jeune fille a apporté des bâtiments, une ferme. Il a donné ça à mon père, il lui a dit, avec ce document, vous allez à la préfecture, à Cahors, avec deux photos à vous et deux photos de votre femme, et vous leur dites que vos papiers ont brûlé, que vous avez besoin de cartes d'identité. Et mon père est allé à la préfecture. Et à la police, on lui a fait des cartes d'identité en fonction de l'état civil qui figurait sur ce contrat de mariage. Tout était exact. La seule chose, c'est que les photos ne correspondaient pas à l'état civil qui figurait sur les cartes. Et à nouveau, on était tranquille. En cas d'arrestation ou de demande de papier par la police, quelques temps après, mon père, en sortant de la scierie où il travaillait le soir, les gendarmes l'attendaient, l'ont arrêté et l'ont emmené dans un camp de travail. Dans la zone sous gestion du gouvernement de Vichy, il y avait beaucoup de camps comme ça pour pallier au manque de main-d'œuvre, pour pallier au manque de matières premières. Donc pour pallier à ces manques, on prenait des employés arrêtés, qu'on appelait en surplus dans l'économie. Et mon père, lui, a été interné dans un camp où on fabriquait du charbon de bois. Au bout d'environ 3 mois, le soir, lorsque sur le chantier, on a remis les internés en rang, mon père, lui, s'est caché dans la forêt et il s'est évadé. Il s'est évadé et il est parti à Nice. Parce que Nice, dans les Alpes-Maritimes, faisait partie des départements qui étaient occupés par l'armée italienne. Et bien que les Italiens étaient alliés des Allemands, dans leur zone d'occupation, en France en particulier, ils n'arrêtaient pas les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle mon père s'est rendu à Nice. Cet afflux de réfugiés a fait en sorte que, fin 42, début 1943, il s'est trouvé environ 35 000 réfugiés juifs à Nice. Et ces 35 000 personnes, en plus de la population habituelle, autochtone, il faut la nourrir, et il faut la loger. Les Italiens, pour être en mesure de donner à manger à tous ces, enfin d'avoir suffisamment de nourriture pour tous ces gens-là, ont assigné à résidence des familles juives dans différentes villes de leur zone d'occupation. Mon père, arrivé à Nice, a voulu que ma mère vienne le rejoindre avec moi. Et pour ce faire, il a dû faire connaissance d'un jeune homme qui devait être résistant probablement, à qui il a demandé d'aller chercher ma mère, enfin de venir nous chercher nous pour nous emmener à Nice. On est arrivé à Nice où on a retrouvé mon père. Et comme je vous l'ai dit, les Italiens ont assigné les familles juives dans différentes communes. Ça a été le cas de mes parents aussi. Et nous, on a été assignés à résidence à Megève. Alors, on était totalement libres à Megève. Ma mère, à nouveau, m'a inscrit à l'école. Moi, je suis resté à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et au mois de septembre, Mussolini avait été envoyé en prison, disons, par le roi d'Italie. Et c'est un général de l'armée qui a pris sa place, qui était responsable du gouvernement, et qui commandait l'armée italienne. Entre-temps, les alliés, les armées alliées, américaines, canadiennes, anglaises, et en partie de la France libre, avaient débarqué en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc. Et de là, ils ont débarqué en Sicile, et de Sicile sur le continent italien, et se battaient contre l'armée italienne. Et il est arrivé un moment, donc au mois d'août, que le général Badoglio, qui commandait et l'armée et qui présidait au gouvernement, a capitulé devant les alliés. Donc les soldats italiens qui étaient en France, qui occupaient les départements frontaliers de l'Italie, nous ont redescendus à Nice. À Nice, à nouveau, on s'est retrouvés 35 000, en gros 35 000 personnes. Lorsque les Italiens sont partis, 48 heures après, la Gestapo et les soldats allemands occupaient tous les départements qui étaient précédemment occupés par les soldats italiens. Et de ce fait, eh bien, ils ont commencé les rafles comme ils le faisaient dans leur propre zone auparavant. Et là, il a fallu vraiment prendre la clandestinité complète. Donc, ça devenait excessivement dangereux. Et mes parents, pour pouvoir se sauver rapidement et me sauver moi, ont décidé de se séparer de moi. Ils m'ont confié à une des organisations qui s'occupait de cacher des enfants. Les cacher chez des agriculteurs chrétiens, dans des institutions religieuses, protestantes ou catholiques, dans des couvents, dans des monastères. Certaines organisations s'occupaient de faire passer des enfants en Suisse ou en Espagne. Et l'organisme auquel mes parents se sont adressés faisait passer les enfants en Suisse. Un matin, mon père m'a pris sur ses genoux, il m'a dit « T'as 8 ans maintenant, t'es un grand garçon, il faut que tu obéisses, que tu écoutes les gens à qui on va te confier. » Et un matin, mon père m'a emmené à la gare de Nice, et dans le grand hall des départs de la gare, on s'est approché du kiosque à journaux, on regardait la vitrine, et au bout d'un moment, mon père m'a lâché la main et a disparu dans la foule. Je me suis retrouvé tout seul, là, devant ce kiosque à journaux, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, qui m'a paru une éternité, on me prenne par la main et on m'emmène sur le quai, on me fasse monter dans un train, rentrer dans un compartiment, qu'on m'installe dans ce compartiment à côté d'un couple qui lisait, qui ne s'est pas occupé de moi, qui n'a pas levé la tête, cette personne que je ne sais pas qui c'est, encore aujourd'hui, est redescendue du train et a disparu. Et puis petit à petit, le compartiment s'est rempli, le train a démarré, et en fin de journée ou dans l'après-midi, on est arrivé à Annecy. Le couple qui était assis à côté de moi, qui devait avoir la vingtaine à peu près, s'est levé. Ils m'ont pris par la main, ils m'ont descendu sur le quai et puis ils sont approchés d'une jeune femme sur le quai. Et là, ils m'ont lâché la main, eux ont continué, et je me suis retrouvé devant cette jeune femme qui, elle, m'a emmené dans une maison. Dans cette maison se trouvaient déjà 3 ou 4 enfants qui attendaient. Elle nous a donné à manger, elle nous a couchés sur des matelas par terre. Et le lendemain matin, elle nous a ramenés à la gare d'Annecy, où on a repris un train pour Annemasse. Arrivé là, on est descendu du train. Elle nous a emmenés à la périphérie de la commune dans un café. Et elle nous a fait rentrer dans l'arrière-salle, non pas là où on sert les clients, mais dans une salle qui était derrière, et où se trouvaient déjà une quinzaine d'enfants. En fin d'après-midi, lorsqu'il commençait à faire sombre, de la porte arrière de cette salle, 4 jeunes gens sont arrivés et nous ont dit « On est des passeurs, c'est nous qui allons vous amener jusqu'à la frontière avec la Suisse. » Quand on va sortir, il ne faut plus parler, il ne faut surtout pas pleurer non plus. Et si on entend un coup de sifflet, un chien aboyer ou des gens parler, de s'arrêter immédiatement et de s'allonger dans la forêt. On est arrivé au bout d'un certain temps, peut-être, on est arrivé au bord d'une rivière, cet endroit, enfin sur quelques kilomètres, de matérialiser la frontière entre la France et la Suisse. Un des passeurs est descendu dans l'eau, nous a pris sur une berge, nous a déposé sur l'autre, en nous prévenant avant de passer que de l'autre côté, sur l'autre berge, se trouvaient les barbelés qui eux aussi matérialisaient la frontière. Il nous avait expliqué que le seul moyen de passer de l'autre côté, c'était de gratter la terre suffisamment et en rampant, de passer de l'autre côté et de courir le plus loin possible. Et c'est ce qui s'est passé, il nous a pris, il nous a posé de l'autre côté. Donc on est parti, on a couru, et puis arrivé dans un, je pense que c'était un verger, on s'est assis autour d'un arbre, et puis l'aîné d'entre nous, qui devait avoir 12 ou 13 ans, nous a dit que si on voit quelqu'un, un adulte, venir et on se met tous à pleurer pour qu'ils sachent qu'on est des enfants. Et au bout d'un moment, effectivement, on a vu une silhouette arriver, un cône avec une cape de camouflage et puis surtout un casque sur la tête. Et alors là, il n'a pas fallu dire 1, 2, 3, on pleure. On s'est tous mis à pleurer parce qu'on a reconnu sur la tête un casque allemand. Et ce garde frontière nous a fait comprendre de le suivre. Vous savez qu'en Suisse, on parle plusieurs langues, entre autres une langue qui ressemble beaucoup à l'alsacien. Et lui, c'était un Bernois, donc il parlait pas le français. Et puis au bout d'un moment, on a vu au loin une lumière, on se dirigeait vers cette lumière. Et puis quand on est arrivé à proximité, cette lampe, elle était fixée à une maison qui, en fait, était un poste frontalier. Et là, quand on est arrivé à cette maison, un officier est sorti qui, lui, parlait français et qui nous a dit « Arrêtez de pleurer, vous êtes en sécurité, vous n'avez plus rien à craindre, vous êtes en Suisse. »
C'était la première partie du récit du témoignage d'André Panzer, de sa traque et de sa cache enfant pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.